aujourd'hui la masterclass de Anne et Patrick Poirier avec Anaël Pijat.
Bonjour et bienvenue Anne et Patrick Poirier dans cette nouvelle masterclass de France Culture qui vous est consacrée et qui est enregistrée en public au studio 105 de la maison de Radio France. Alors cette collection a pour principe de plonger avec les artistes dans les arcanes de leur création. Avec vous, ça sera une conversation un petit peu particulière puisque c'est à deux voix, à quatre mains, que vous travaillez. Avec Ernst et Hilla Becher, avec Gilbert and George, vous avez été parmi les pionniers de ces duos d'artistes à la fin des années 60. Aujourd'hui, on voit apparaître un grand nombre de ces duos ou de ces collectifs dans les écoles d'art. Il n'est pas rare non plus de les voir se séparer aussi vite qu'ils se sont constitués, alors que vous, il y a 50 ans que ça dure. Avant de débuter, je voudrais juste rappeler à Anne et Patrick Poirier que vous avez exposé dans les plus grands musées du monde, impossible de les citer tous. Récemment, la Maison européenne de la photographie, l'exposition s'est terminée fin octobre, le musée de Saint-Étienne en 2016, de Nantes en 2014, le Getty Research Institute en 2000, Lausanne en 99, Montréal en 83, et puis le Centre Pompidou et le MoMA en 78. Vous avez aussi participé aux biennales et événements internationaux les plus importants, trois fois la Biennale de Venise, la Documenta de Cassel, la Biennale d'Istanbul, de Lyon, et en 2015, même la Biennale d'Echigo Sumari au Japon. Et puis, il y a aussi des lieux plus secrets dans lesquels vous avez exposé, beaucoup d'églises, même un cimetière en Italie. Votre œuvre, d'une très grande diversité formelle, de médium mais aussi d'échelle, en revient toujours à la question de la mémoire, de la lutte contre l'oubli, à la question de la fragilité du monde. Chez vous, la forme de l'empreinte apparaît souvent dans tout ce qu'elle a de plus fantomatique. Nous y reviendrons un peu plus tard. Alors, avec ces masterclass de France Culture, nous essayons toujours de remonter jusqu'aux origines d'une démarche de création. Anne Poirier, vous venez d'une famille de Marseille. Est-ce que l'art était présent dans votre environnement familial ? Qu'est-ce qui vous a conduit à la pratique artistique ?
Mon père était aurait été un professeur merveilleux. Il a pris une autre voie. Il travaillait dans le port de Marseille. Et maman n'avait, comme dans ce milieu, elle ne travaillait pas. Elle n'avait pas fait d'études particulières. Mais elle venait d'un milieu militaire. Son père avait été tué à la guerre de 14, comme officier de carrière. Et elle en avait éprouvé une jeunesse assez difficile. Elle en avait eu des problèmes psychologiques qui l'ont poursuivi toute sa vie et qui ont hanté notre jeunesse et qui ont fait que je me suis intéressée beaucoup et très tôt à la psychanalyse et à l'inconscient et à tous ces domaines-là. Et maman était une passionnée d'histoire et elle m'a transmis cette passion.
Et vous, Patrick Poirier, qui veniez de Nantes, faire de l'art, c'était un besoin ?
Oui, c'était pas très difficile, parce que dans la famille, il y avait toujours eu quelqu'un qui faisait un peu quelque chose avec de la peinture ou autre chose. Ma grand-mère paternelle avait fait l'Académie Julian, donc à cette génération-là, quand même, c'était à la fin du 19e, c'était quand même, ou début 20e, c'était quand même assez... Donc moi, j'ai pas eu du tout de difficulté de décider d'être artiste. Par contre, j'avais beaucoup d'autres idées quand j'étais jeune, je pensais plus à faire du bateau qu'autre chose. Donc je pensais être architecte naval, faire des bateaux de course ou autre. Et puis tout d'un coup, je sais pas, ou alors être collectionneur, ça m'aurait bien plu, mais je sais pas comment je pouvais faire. Donc voilà.
Alors l'un et l'autre, vous avez été élève séparément à l'école des arts décoratifs, dont l'enseignement était réputé être plus ouvert que celui des beaux-arts. Vous avez aimé ces années d'études ?
Je peux pas dire que j'ai aimé ça, non. Mais ce que j'aimais, c'était d'être avec des jeunes comme moi, dont certains étaient vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient. Et donc, le travail de groupe, les charrettes. Mais en fait, je me suis très très vite rendu compte que j'étais pas du tout faite pour la publicité ou pour la décoration, surtout qu'à cette époque, l'école était beaucoup plus ouverte que les Beaux-Arts parce qu'il y avait des ateliers plus modernes qu'aux Beaux-Arts. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui me concernait, que je voulais vraiment être artiste. J'ai complètement laissé tomber le diplôme, j'ai jamais passé. Et par contre, j'ai présenté le ROM, je l'ai eu. Et à ce moment-là, j'ai pu faire que ce que je voulais, c'est-à-dire, à ce moment-là, c'était de la sculpture.
Venons-en à votre rencontre, Anne et Patrick Poirier, que vous avez souvent raconté, enfin, à un moment essentiel en tout cas. Vous vous êtes croisés devant le tableau de Poussin au Louvre, « Et in Arcadia ego ». Qu'est-ce qui vous a réunis devant ce tableau ?
J'étais déjà vu de loin, on était quand même dans la même école. J'avais besoin d'argent et donc j'avais été voir le directeur pour savoir s'il pouvait pas me trouver un petit boulot parce que je commençais à voyager pendant l'été et j'avais toujours besoin d'argent justement pour organiser les voyages et qui allaient de plus en plus loin. Et donc ça s'est passé comme ça. J'avais déjà repéré cette jeune fille, et puis un jour en allant au Louvre, je tombe sur cette jeune fille à côté d'une peinture que je trouvais plutôt pas mal. Donc je me suis assis et voilà.
Et alors après le moment de cette rencontre symbolique peut-être, comment avez-vous commencé à travailler ensemble?
Ça s'est fait tout seul parce que justement Anne est partie en voyage de son côté, moi de mon côté, et puis à un moment on a commencé à voyager ensemble et c'est là où finalement on s'est aperçu que c'était idiot de faire deux choses. Et puis quand même dans cette école on travaillait par groupe ou par plusieurs puisque c'était un système d'architectes. Et donc il y avait ça, et donc c'était assez logique de pouvoir faire quelque chose à plusieurs. Moi personnellement, j'écoutais beaucoup de musique et il y avait ces groupes, les musiciens n'étaient jamais seuls. Donc les architectes non plus, il n'y avait aucune raison de rester seul dans son truc, dans son atelier, à faire quelque chose. Donc voilà, et puis moi personnellement j'étais un peu trop rapide, donc je faisais un peu de peinture et il fallait que ça aille vite. Par contre Anne était très très lente, et finalement en réfléchissant à ça, sans doute ça a joué. Parce que c'était une manière de s'équilibrer, de faire quelque chose qui avait plus un raisonnement, où on pouvait réfléchir ensemble sur quelque chose et construire quelque chose.
En fait, quand Patrick m'a proposé de travailler avec lui, j'ai tout de suite dit oui, parce que d'abord j'admirais beaucoup, moi au contraire, sa manière, sa rapidité, sa puissance de travail, et puis il était beau garçon, hein. Alors ça compte quand même.
Vous vous êtes même marié. C'était
Pardon?
Un acte. Vous vous êtes même marié.
En 68.
C'était un
acte. À l'époque où personne ne se mariait, on s'est marié. On a trouvé le moyen de se marier.
Mais alors, est-ce qu'il y a une première œuvre?
Ah oui, il y a une première œuvre, mais je ne sais pas où elle est passée. C'est sûr qu'elle est à la poubelle depuis bien longtemps.
Oui, parce qu'en partant de la villa, on a jeté, je ne sais pas combien, moi j'ai brûlé presque tous mes travaux, les premiers travaux de la première année de la villa, je sais.
Non, mais même avant, parce que on avait chacun un atelier. Anne avait une ancienne épicerie rue Mouffetard, et qui appartenait à la ville de Paris, ça ne coûtait rien du tout. Et moi, j'avais un atelier à la Cité des Arts. Et puis, mais bon, quand on est parti justement à Rome, il y a eu une fuite d'eau, donc j'ai loué une camionnette et on a tout jeté, et voilà, c'était fini.
À l'époque, comme je le disais en introduction, il y avait d'autres duos, par exemple Gilbert and George ou bien les Béchères, mais c'était somme toute assez rare encore de travailler à deux. Quand vous êtes arrivé à la Villa Médicis, comment cela a-t-il été perçu? Est-ce que c'était une évidence?
Non, mais comment dire, D'abord, on ne connaissait pas du tout l'existence de Gilberton George et des Becker, hein, parce qu'on les a connus après même assez bien, puisqu'on a été dans la même galerie, chez Ilana Sonnabend, mais à cette époque-là, on ne se rendait pas du tout compte. Moi, pour moi, travailler avec Patrick, c'était retrouver un peu mes jeux d'enfance. Moi, j'étais un vrai garçon manqué, et je jouais beaucoup avec des garçons à faire des choses, à construire, à faire des choses. Et j'avais l'impression de retrouver un peu... Mes jeux d'enfance avec mes cousins, où on construisait quelque chose ensemble, et ça me convenait parfaitement.
Est-ce que dans le fait de travailler à deux, c'est-à-dire de se démarquer du modèle des avant-gardes, de l'artiste seul devant son chevalet, mais aussi d'une certaine manière des groupes, des ateliers de la Renaissance, est-ce qu'il y avait, consciemment ou pas, quelque chose d'un manifeste, quelque chose d'un engagement, j'ose à peine dire politique, mais une intention?
Oui, il y avait certainement quelque chose comme ça, mais c'était inconscient. On ne s'en rendait pas compte. C'est évident, ça a démarré vraiment, c'est sûr, après 68, mais peut-être c'était une question de génération, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais eu l'impression d'être deux, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être une seule personne. C'est à la suite, quand on a demandé des choses, à un moment, on s'était présenté pour être professeur, et c'était impossible, deux personnes, et on disait, ben, nous, ça nous est égal, un salaire, ça nous est égal. Non, c'était pas possible, l'administration, c'était pas... Et c'est là où on s'apercevait qu'on était deux. Mais autrement, non, c'était parti comme ça, et on échangeait, et c'était une façon de travailler.
Oui, parce que quand même, notre travail, je pense que ce qui distingue aussi notre travail des autres couples qui travaillent ensemble, c'est qu'on n'a aucune spécialisation.
Oui, on va y revenir.
Je veux dire, même si Patrick préfère faire certaines choses et moi d'autres, disons que tout est signé ensemble, parce qu'on considère notre œuvre complètement commune, et on participe chacun à toutes les étapes de la fabrication, de la réalisation d'un travail ou d'un projet.
Tout en signant ensemble ces œuvres, vous avez veillé à garder chacun une identité différente sur vos passeports de l'époque, quand les professions étaient encore indiquées. Vous étiez l'une architecte, l'autre archéologue. Pourquoi cette volonté, à ce moment-là, de ne pas apparaître comme des artistes ?
Oh, c'était très ennuyeux, parce que d'abord, le mot plasticien, qui est horrible, non, aussi, n'existait pas. Et donc, il fallait être sculpteur ou peintre. Et sculpteur, c'était horrible. Moi, pour moi, c'est la chose, le mot le plus horrible.
Oh, merci, je
ne sais pas. Et donc, je me disais, non, c'est pas possible. Et puis, bon, on était beaucoup plus proche de tout ça. On était beaucoup plus proche de l'archéologie et de l'architecture. Donc, il n'y avait aucune raison
de... Si vous vous présentiez comme artiste, vous étiez traité comme des rigolos. Aux frontières, c'était très compliqué. Tandis que si vous étiez archéologue, artiste, architecte, vous étiez considéré comme des gens importants. Et on pouvait se faire ouvrir plein de portes. On s'est fait ouvrir plein de portes que normalement on ne nous aurait pas ouvertes, comme
des
sites archéologiques où on disait on fait une recherche sur ceci ou sur cela.
Même passer aux douanes, oui. Donc c'est beaucoup.
Non, en fait, on est des imposteurs, quoi.
En tout cas, vous avez inventé un personnage de fiction qui est un architecte archéologue qui a traversé toute votre œuvre, qui a découvert le site de Mnemosyne, qui est le titre d'une de vos œuvres. Il me semble que l'architecture et l'archéologie, en plus de ce qu'elles vous apportent évidemment, sont un peu comme des métaphores dans votre travail pour parler de la question de la mémoire, pour parler de la question de l'oubli, mais aussi de la fragilité du monde.
Absolument. D'ailleurs, tout notre travail... On travaille toujours par métaphore, c'est-à-dire que quand on est allé à Ostia Antica, la première grande maquette qu'on ait faite, et même avant, les jardins de la Villa Médicis, on était frappé par la ruine. L'idée de ruine, pour nous, c'était pas seulement l'idée d'étudier le style romain ou de prendre le style romain comme modèle d'architecture, pas du tout. C'était une métaphore pour exprimer le temps qui détruit tout, donc une espèce de grande vanité, ou la violence de l'histoire quand il s'agissait de destruction plus violente.
Mais l'archéologie, ça nous permet de regarder derrière le passé et l'architecture de construire. Donc c'était un peu ça aussi. Et donc notre travail finalement il continue toujours comme ça, parce qu'il y a des moments où on est beaucoup dans les ruines et on s'intéresse plus au passé et par métaphore etc, mais il y a des moments tout d'un coup on a plus envie de construire et ça devient beaucoup plus une chose mentale qui se dirige vers le futur. Ce sont des fictions aussi, on travaille beaucoup à partir de fictions, d'idées de fictions, de textes aussi.
À l'intérieur des métaphores architecturales ou des ruines, il y a des choses qu'on fait très régulièrement. C'est par exemple la ville-musée, comme justement Mnemosyne, la bibliothèque, la bibliothèque comme métaphore de la mémoire, et le théâtre comme métaphore de la mémoire aussi. On lit beaucoup, et bon, à un moment, on a découvert un livre qui était merveilleux à sa sortie. C'était un livre de Frances Yates, une chercheuse américaine, et sur la mémoire, et qui s'appelait L'art de la mémoire, et qui justement parlait de toutes les recherches sur la mémoire depuis l'Antiquité liées à l'architecture. Et parce que toutes ce sont des recherches mnémotechniques, des mnémotechniques qui s'attachaient à enfermer les choses dans des espaces de manière à les retrouver. Et c'est ça qui nous a beaucoup inspirés aussi.
Mnemosyne aussi, au moment où on a fini cette première pièce de Mnemosyne, la première maquette, on connaissait très bien un critique qui s'appelait Günther Mettken, un critique allemand, qui était aussi un bon ami, et qui, en voyant ce travail, nous dit « Mais est-ce que vous connaissez Abi Warburg ?» Et nous, on n'avait aucune information sur Abi Warburg, parce que, de toute façon, il était à peine traduit. Et c'est lui qui nous a montré, apporté des livres, etc. C'était très étrange de se retrouver à avoir pensé quelque chose d'elliptique, qui s'appelait Mnemosyne, avec différentes cases, etc. Et ça fonctionnait un peu de la même façon que la bibliothèque de Hambourg. Et ça a été aussi un moment très important dans notre travail.
Dans ces deux mondes de l'archéologie et de l'architecture, métaphoriquement, il y a aussi le monde souterrain et le monde céleste qui se rencontrent, peut-être à la surface de la Terre et dans l'ici et le maintenant, c'est-à-dire dans l'intensité du temps présent, finalement. J'ai l'impression que c'est ça aussi que votre œuvre embrasse.
Je n'ai jamais pensé à ça. C'est difficile comme... c'est très difficile, Patrick. On sèche, là. Non, par contre, vous parlez du souterrain et du ciel. Et c'est vrai qu'on a fait des travaux qui parlent beaucoup du souterrain, comme tous les travaux sur la Domus Aurea. La Domus Aurea étant un lieu qui nous a inspiré tout un travail qu'on a fait pendant plusieurs années sur l'idée du noir, de l'obscurité. Et on avait pris cette architecture enfouie, en ruine, et complètement abandonnée, parce qu'on ne pouvait pas y pénétrer à l'époque. On s'était justement dit, on avait fait jouer notre titre d'archéologue pour pouvoir y aller. Et on avait pris ce lieu, ce labyrinthe souterrain, comme métaphore de l'inconscient. Et à partir de là, on a commencé à faire des travaux. Et une autre métaphore, c'est la métaphore des constellations célestes, toujours en essayant d'expliquer les mouvements qu'on a dans le cerveau, les mouvements de la psyché. On a fait des grands graphiques, des grandes peintures bleues. Un bleu très 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 dense, et avec des constellations qui tournent les unes autour des autres et qui essayent d'organiser toutes ces pensées, toutes ces passions, tout ce qui tourne dans notre tête, quoi.
Mais il y a aussi beaucoup de... On est très attiré par les profondeurs. Et un de nos premiers ateliers qu'on a eu dans le 14e à Paris, on a fait toute une pièce de Domus Aurea, qui s'appelait Osée, dans une cave. On a construit dans la cave, et on aimait descendre à la cave pour faire ce truc. Il y avait très peu de lumière, et on travaillait quasiment dans la pénombre. Et on a toujours, on a montré pas mal de pièces comme ça dans la pénombre, même une exposition à Milan. Le type de la culture voulait nous faire fermer l'exposition. C'était dans une église parce que il est rentré, c'était complètement dans le noir. Et puis, par exemple, à Vienne, dans des souterrains, on avait demandé la cave de Freud, puisque c'était au moment de l'anniversaire de, je sais pas quoi, de forme de Freud. Mais finalement, la cave de Freud, c'était pas possible. Il nous avait donné une espèce de labyrinthe de cave, et il fallait descendre un escalier très très profond. Et on donnait des torches aux gens. Il n'y avait pas de lumière, et les gens visitaient l'exposition dans ce labyrinthe de cave avec des torches. Donc ça nous suit toujours. C'est quelque chose d'important.
Dans ces grandes maquettes, très grandes pour l'époque, si je puis dire, il y a des échelles microscopiques aussi. Ce sont des reconstitutions de villes extraordinairement minutieuses qu'on regarde parfois à la loupe. Cette question des jeux d'échelle est très présente dans votre travail.
Oui. C'est-à-dire qu'on n'aime pas... en fait, on travaille jamais à l'échelle normale. Soit on travaille en très petit, minuscule. Quelquefois, il y a certains travaux où il faut vraiment des loupes ou des instruments d'optique pour les regarder, des longues vues. Ou bien, on aime mettre les gens dans une position, au contraire, d'être dominés par des choses gigantesques, comme par exemple les grandes colonnes qui est écroulée, ou bien les grands yeux des géants. Parce qu'en fait, on aime... Que le spectateur se trouve dans un espace qui ne soit pas la réalité. Et on aime bien essayer de déconnecter le spectateur de la réalité.
Vous parlez d'échelle poétique.
Voilà, c'est ça.
Oui, on n'a pas d'échelle. On a l'échelle par rapport à nous. On commence un travail sans savoir exactement, mais... tout d'un coup, il y a une échelle qui... Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire quelque chose qui soit très grand et qu'on regarde d'une façon totalement différente. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire le tour. Et comme les éléments sont petits, vous regardez assez lentement. Et je pense qu'il faut déambuler. Ça demande une déambulation, mais autour d'un seul travail. Et c'est pour ça que quelquefois on donne des jumelles ou il y a des longues vues ou quelque chose. Enfin, la longue vue, elle permet à différents points de se déplacer. C'est important pour nous cette promenade.
On a fait il y a quelques années déjà, dans les années 90. On nous avait offert un espace qui s'appelait qui était un ancien gazomètre en Allemagne. Dans la Ruhr, c'était donc un espace très sombre, et on a rempli ce gazomètre d'un grand bassin d'eau qui faisait un mètre de haut, donc c'était vraiment
sur 40 mètres
de diamètre. Et tout autour de cet espace, on a disposé 24 longues vues, parce que au milieu du bassin, on avait construit des îles qui étaient couvertes de ruines, mais de ruines industrielles, parce qu'on s'était inspiré de la mémoire de la Ruhr. Hein. Et des scènes de guerre, tout ça était très noir et très peu visible. On donnait des longues vues pour voir les détails. Et au fur et à mesure que ces longues vues, elles faisaient 15 degrés. On pouvait couvrir 15 degrés, pas plus. Mais ces longues vues étaient reliées à des CD qui étaient des enregistrements de sons, plutôt des sons type industriel et de paroles aussi, des gens qui parlaient en allemand, en français. Et donc chaque fois qu'on déplaçait ces longues vues pour voir le paysage, on se déplaçait aussi dans l'espace, on provoquait une atmosphère différente, une atmosphère sonore différente. Et c'était jamais la même chose, ça ne pouvait jamais être la même chose, puisque selon le nombre de spectateurs et le sens de leur pérégrination, ça déclenchait toujours des sons différents.
Parce qu'il y avait 5 sons par angle. Donc, multiplié par le nombre de longues vues, ça devenait un son qui n'était jamais le même. Et c'était très important parce qu'il y avait des sons très, très brutaux et d'autres, au contraire, des chuchotements à peine perceptibles. Et donc, c'était tout le temps quelque chose qui était même assez presque stressant, dans un sens.
Assez angoissant.
Vous parliez tout à l'heure de la présence des ruines, de ces mondes très sombres. Il y a dans votre travail une conscience des guerres, une conscience de la violence du monde. Pour vous, la place de l'artiste dans la société, qu'est-ce que c'est ?
Ben, c'est d'être à part et de regarder le monde d'une autre façon. On a la chance d'être extérieur et d'avoir un œil extérieur. C'est vrai que nous, on a regardé depuis qu'on est jeune, on a eu quand même beaucoup de choses à regarder. Moi, personnellement, dès que je suis né, j'ai été confronté presque immédiatement à un drame familial, donc des bombardements, etc. Ça marque, et puis après, on regarde le monde, on a regardé le monde changer. Moi, j'ai voyagé plusieurs fois jusqu'au Népal en deux chevaux Citroën, à travers des pays qui sont impossibles à traverser maintenant, Syrie, Irak, Iran, Afghanistan, etc. Et tout ça marque. Donc, ces villes, une fois on était allé à Mexico, et on est retourné quelques années après, il y avait eu un tremblement de terre. On n'a rien retrouvé, on n'a rien reconnu, la ville avait complètement changé. Donc on est spectateur et on voit se dérouler devant nous quelque chose, des événements. Et dans un sens, notre travail, par moment, on essaye de montrer aux gens quelque chose de différent, mais qui parle de ça aussi.
Alors, c'est vrai que je pense que...
Allez-y.
Notre travail, on s'en fiche un peu de l'histoire de l'art. Je veux dire, on aime l'art, on y puise. Mais je veux dire, les théories artistiques, les avant-gardes, les arrière-gardes, tout ça, ça nous intéresse très peu. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le monde qui nous entoure. Et on travaille par rapport à ça.
Mais alors justement, ces voyages dont vous parlez, que vous avez fait en grand nombre, ces villes dans lesquelles vous avez habité, ces lieux, en quelque sorte, ce sont pour vous des matériaux de travail ?
Oui. Comme par exemple, Rome a été un matériau de travail énorme qui nous a servi pendant plus de 10 ans. Ensuite, on a vécu à Berlin, où là aussi, on a fait un certain nombre de travaux. Parce que Berlin, bien avant la chute du mur, c'était quand même une atmosphère dont... Nous, on ne pouvait pas rester insensible à ça. On ne pouvait pas continuer à faire une peinture, je ne sais pas quoi, sur l'Antiquité. Il fallait qu'on change. Après, on était à Los Angeles, encore une autre atmosphère. Ça a donné des travaux complètement différents. Chaque fois, on est comme des éponges qui absorbons l'environnement, quoi.
Alors, pour aller plus avant dans cette masterclass de France Culture, Anne et Patrick Poirier, je voudrais que vous nous fassiez entrer dans votre atelier. Je voudrais savoir comment vous travaillez, comment s'organise votre travail à deux. Je crois qu'il y a une phase préparatoire dans laquelle vous faites des recherches d'abord séparément et qu'ensuite vous mettez en commun vos idées, le fruit de votre recherche. Comment ça se passe ?
C'est jamais très précis. Ça part très souvent de voyages et de lieux. De lieux sur lesquels on est allé et on fait toujours des travaux dans le lieu, donc quelquefois ce sont des empreintes avec un papier très léger, quelquefois ce sont des notes, des dessins ou même on relève le plan de quelque chose mais sans forcément un mètre, avec notre propre corps, etc. On s'attribue lieu et en général, on reste dans les lieux. C'est-à-dire que on passe pas 3 jours et on s'en va. Non, on reste longtemps. On essaye de réfléchir. Il y a quelque chose qui se dégage à ce moment-là. On collecte les plantes, tout ce qu'on peut, des fragments, des choses. On ramène quelquefois, on achète des valises sur place et on remplit des valises de choses. Quand ce sont des empreintes ou des moulages de papier, c'est très léger, donc c'est assez drôle. parce qu'aux douanes, ils voient une valise arriver et elle pèse rien. Donc, enfin, ça provoque des choses assez drôles. Mais, et ça, c'est un matériel qui reste quelquefois. On travaille pas tout de suite. Ça reste. Et puis, ça mûrit. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se déclenche. Mais je pense qu'on se pose pas vraiment la question. On en parle, mais c'est tout d'un coup, il y a quelque chose, il y en a un qui commence. Si on voit que l'autre n'est pas d'accord, ça fonctionne pas, quoi. Il y a aucune réaction. Ça, on laisse tomber. Enfin, je veux dire, on n'insiste même pas. Quelquefois, c'est repris plusieurs années après.
Vous êtes toujours d'accord ?
Non.
Non.
Pas du tout.
Du tout.
Pas toujours.
Non.
On a même quelquefois des moments de tension réelle. Et je me rappelle même une fois, on était justement dans notre atelier l'été, et on construisait les ruines en charbon, et en sciant on partait de morceaux de fusain, et il fallait les couper, les transformer en briques, en planches, etc. Et je ne sais pas ce qui nous a pris avec Patrick, je ne me rappelle plus le sujet de la querelle, mais il m'a tellement énervée, j'avais un seau plein de poussière de charbon à la main, je l'ai envoyé en l'air, et
C'était une bassine.
Pendant un quart d'heure, on ne voyait plus rien dans c'était impossible.
Et on s'est retrouvés comme des charbonniers, enfin,
complètement noirs. Finalement, on a rigolé, on a éclaté de rire parce qu'on était, et puis ça a tout calmé, quoi. Enfin, c'est pas toujours, on n'est pas toujours d'accord, hein, pas du tout.
Alors, quelquefois, elle lance les couteaux, mais je sais assez bien éviter, finalement.
Ça m'est arrivé une fois, et Patrick a eu le.
Oui, il m'a couru derrière avec un couteau.
Oui, ah mais tu m'avais tellement énervé, excuse-moi.
Et donc j'avais un Polaroid à côté, j'ai pris le Polaroid, j'ai fait la photo.
Et après, il a fait du chantage.
Mais la photo a disparu, malheureusement.
On n'en dira rien. Alors, après ces phases de préparation mouvementées, vient le moment de la production de l'œuvre qui est au cœur de ces masterclass de France Culture. Les médiums que vous utilisez sont d'une très grande variété. Vous cartographiez votre œuvre en 6 pôles, la photographie, la sculpture, l'installation, l'architecture, l'archéologie et les jardins. Et puis dans les matériaux que vous utilisez, il y a à la fois le plâtre, le bois, la céramique, les petites briques de céramique, le charbon de bois. Comment, quand vous avez l'idée d'une œuvre, le bronze, le marbre, bien sûr, comment trouvez-vous, une fois que vous avez l'idée d'une œuvre, le médium juste ?
Parce qu'on essaye d'utiliser. Enfin, il y a déjà deux types de travaux, les travaux d'atelier, les travaux d'intérieur. Alors à ce moment-là, ce n'est pas tellement la question de la résistance du matériau, mais c'est la question de ce qu'on veut exprimer, c'est-à-dire par exemple, les premiers travaux où on a cherché à exprimer la fragilité, c'était les moulages en papier des jardins de la Villa Médicis. C'était parmi les tout premiers travaux qu'on faisait. Et là, on a choisi le papier parce que c'était comme une chrysalide, comme une peau, comme une chose presque impalpable. Après avoir réfléchi à de nombreux matériaux, on a pensé que c'était vraiment le meilleur. Et souvent, c'est le choix du matériau vient de là. On essaye de prendre le matériau qui répond le plus à notre idée, à ce qu'on veut dire. Comme par exemple, pour la Domus Aurea, on a choisi le charbon parce que c'était noir, parce que ça exprimait l'idée du feu, de la combustion. Enfin, ça, on avait envie de trouver un matériau qui rassemble tout ça. Mais par exemple, on a les travaux extérieurs, on est obligé d'utiliser des matériaux qui résistent. Parce qu'on a, on pourrait faire des travaux extérieurs éphémères aussi, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui en font, etc. Mais ceux qu'on a fait en extérieur, nous, on a choisi qu'ils ne soient pas éphémères. Et donc, il faut, à ce moment-là, utiliser des matériaux qui résistent, le bronze, le marbre, des matériaux qui résistent à l'extérieur.
Je me demandais justement, quand vous travaillez avec des artisans, des collaborateurs pour la production de certaines de ces pièces, comment la parole se répartit entre vous ? Parce que là, on vous entend, vous faites parfois le début d'une phrase, enfin parfois l'un commence une phrase, l'autre la termine, ou bien vous parlez l'un après l'autre. Quand vous travaillez avec des collaborateurs, votre parole est interchangeable ?
Oh oui, ça se passe assez facilement. Je sais pas, on fait pas très attention, mais on aime bien travailler avec d'autres personnes. On a toujours eu des gens avec nous dans notre atelier qui nous aident. En général, ce sont des jeunes gens. Quand on était à Paris, moi, je faisais de l'aviron et je faisais partie d'un club d'aviron, donc je trouvais toujours quelqu'un qui, je sais pas pourquoi. Et ce sont pas, en général, ce sont pas des futurs artistes. Et ça se passe très bien. On leur dit, quelquefois, ils font les pièces eux-mêmes. C'est-à-dire que on intervient à très peu. Avec les artisans, c'est la même chose. On donne des dessins, et puis les choses se fabriquent. Et il y a toujours, que ce soit Anne ou moi ou tous les deux, les choses, c'est la même chose.
Mais moi, ce que je voulais dire à propos des assistants, c'est que il y a par exemple, quand on fait des maquettes, bon, il y en a qui sont très dessinées dès le début, elles sont géométriques, elles sont, on peut pas, il n'y a pas d'intervention possible. Mais pour les paysages de ruines, pour les choses plus libres. Et ils rentrent dedans, vraiment, ils rentrent dedans, ils se, et on les laisse très libres de faire.
Ça devient un jeu.
Vous écoutez les commentaires. Est-ce que éventuellement vous avez besoin des commentaires sur votre travail, des amis galeristes, autres artistes, éventuellement critiques au moment où vous travaillez?
Des amis.
Des amis, oui. Il faut que ce soit des bons amis.
Des galeristes. Pas vraiment. Le reste, non, mais ça dépend aussi des gens. Ça dépend ça dépend des gens. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous parle d'un livre ou de quelque chose. Il y a des choses très intéressantes. Oui. Mais non, on est assez imperméable à ça. Je veux dire, on avance. On est déjà deux, hein, donc bon.
Et mais pour être honnête, quand même, on préfère que, en parlant des critiques, qu'elles soient bonnes que mauvaises, quoi.
Et dans ce fil de production, Anne et Patrick Poirier, est-ce qu'il y a un moment, enfin, à quel moment prenez-vous conscience du fait qu'une œuvre est achevée?
Elle est finie.
Quand on en a assez de. Parce que ça prend beaucoup de temps.
Si ce sont des choses
comme les photos ou les.
On le sent, je pense qu'un peintre, c'est
plus
pareil.
Petit, donc ça va assez vite. Mais si ce sont les choses qu'on commence à l'atelier et qui nous prennent, je sais pas, 2, 3, 4, 5 mois, il y a un moment où on arrive à la fin. C'est évident. Par exemple, Exotica, ça, le truc, ça s'est terminé parce qu'on n'avait plus de place dans l'atelier. Donc c'était fini.
Et est-ce que parfois, quand vous tournez vers le passé, il y a des œuvres dont vous vous dites que vous aimeriez les retoucher. Est-ce que vous l'avez fait quelquefois?
Ah, ça arrive, oui.
Il y a des choses qu'on peut reprendre. Par exemple, certaines peintures, vous pouvez revenir dessus. Mais il y a des travaux sur lesquels vous ne pouvez pas revenir. Et puis, il y en a qui sont justement, qui doivent être spontanés, qui doivent être lancés comme ça, jetés.
Je voudrais qu'on s'arrête, Anne et Patrick Poirier, quelques instants sur une pratique que vous avez depuis vos débuts, qui est celle de la photographie, qui traverse tout votre travail et qui intervient, me semble-t-il, comme des respirations entre des périodes de travail sur d'autres œuvres. Finalement, comment pratique-t-on la photographie à deux ?
Moi, personnellement, je vais parler un peu de moi. J'ai une obsession sur les appareils photo. Donc, j'ai une belle collection d'appareils photo. Quand on a déménagé il y a une dizaine d'années, j'en ai donné pas mal, mais malheureusement, ça continue. Donc, chaque appareil a sa personnalité. Ce qui fait que ça donne à chaque fois des photos différentes, on utilise d'autres techniques, c'est toujours nouveau. Anne intervient plus,
comme disons,
dans le regard, dans les conseils et dans la direction, etc. Et moi, je vais au charbon un peu, c'est-à-dire que je me lance et c'est, ce sont toujours des expériences parce qu'on n'y connaît rien.
Quand
on allait chez Picto rechercher les choses, on se mettait toujours dans un coin parce que il y avait que des types, des professionnels vachement forts et tout. Et nous, c'était toujours raté. On voyait bien que quand je venais chercher les trucs, le type nous faisait une tête un peu comme ça, en se disant les pauvres, ils dépensent une fortune pour des trucs. Raté. Et puis, mais nous, ça nous est égal que ça soit raté parce que, en fait, on jouait là-dessus.
Quand vous travaillez, quand vous prenez des photos ou dans d'autres circonstances, vous avez des rituels ? Dans le travail, hein, j'entends.
Ah, on est obligé, oui. Ça, c'est, parce que si on travaille avec la chambre, c'est tout d'un coup. De toute façon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger. Donc, c'est un truc qu'on fait à l'atelier. Donc, évidemment, c'est quelque chose. Et puis, si on travaille au labo autrefois chez Choi, c'est un peu comme un rituel quand même. Parce que c'est lent. C'est finalement quelquefois une ou deux photos par jour. Donc il y a un démarrage, il y a toute une chose. Oui, c'est
ça,
quand même
ça dépend. Par exemple, au début, quand on utilisait des appareils portatifs, c'était rapide. C'était pas dans la prise de vue. C'était dans le développement et le maquillage des photos, le traitement des photos, soit chimique, soit pictural. Tandis que après, quand on a utilisé des chambres, il fallait amener le motif derrière l'optique. Donc, c'était tout à fait différent, quoi.
Vous faites une place au hasard ?
Pardon ?
Vous faites une place au hasard ?
Oh, totalement, oui.
Dans tous les domaines, pas seulement en photographie.
Dès que c'est raté, tout d'un coup, ça devient quelquefois formidable. Donc, oui, le hasard, c'est vraiment un des guides. Mais dès le début de notre travail, c'était un hasard. On s'est rencontrés par hasard. On a commencé à travailler ensemble par hasard. Et ça continue, je veux dire, c'est toujours.
Alors, il y a un autre domaine sur lequel je voudrais qu'on s'arrête dans votre travail, Anne-Patrick Poirier. C'est la question du son et des mots. Vous écoutez beaucoup de musique, du rock qui fait du bruit de Berlin jusqu'à de la musique classique, l'opéra en particulier. Je me demandais, est-ce que vous travaillez en écoutant de la musique ?
Moi personnellement, si je dois imaginer quelque chose, je peux pas imaginer. Enfin, si je suis dans un processus de dessin, d'imagination, de mettre des choses au point mentalement, je peux pas écouter de la musique. Mais par contre, dès qu'il s'agit de fabriquer, d'élaborer les choses, alors j'adore écouter de la musique. Patrick, les.
C'est la même chose. Oui. Je veux dire, il y a des moments où c'est vraiment le silence. Et de toute façon, on aime beaucoup le silence. C'est très important. Mais il y a des moments aussi où il faut du bruit, donc ça peut être de l'opéra. Anne, en général, c'est plutôt de l'opéra. Moi, c'est au contraire un truc qui fait un peu du bruit.
Mais moi, j'adore le rock aussi, seulement de temps en temps, j'en ai marre. Parce que...
Dès que ça fait un bruit un peu bizarre, moi, j'adore. Donc, dès que c'est raté, dès que c'est boche, ça me met vraiment, ça m'excite.
Il y a des œuvres sonores dont vous parliez, Anne, tout à l'heure. Par exemple, celle qui était dans le gazomètre dans la triennale de Oberhausen. Comment, dans ce cas-là, vous travaillez avec le son? Vous travaillez avec des musiciens?
En ce qui concerne la pièce du gazomètre, Mundus Subterraneus, on avait travaillé avec un groupe, avec des musiciens qu'on avait rencontrés à Los Angeles. Mais on a travaillé vraiment avec eux. C'est-à-dire, on allait dans les studios d'enregistrement, on choisissait les sons avec eux, et c'était très
bien. C'est la première fois, mais on n'a pas.
C'était une collaboration formidable. Autrement, c'est plutôt nous qui faisons les sons. Alors, je voudrais rappeler, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une pièce sonore, mais je trouve que c'est quand même la première pièce sonore qu'on ait faite. C'était il y a très très longtemps. On venait de rentrer de Rome à Paris et on connaissait personne dans le milieu de l'art. Et Patrick a fait une bande sonore, a eu cette idée. On a enregistré une bande sonore sans fin,
mini-cassettes.
Et sur un côté, il y avait Bonjour, Monsieur Pacman. Nous aimerions beaucoup avoir votre visite. Et sur l'autre côté, si tournait la bande, « Monsieur Pacman, nous attendons toujours votre visite.
La » L'avez-vous envoyé?
Oui, on avait fait plusieurs trucs comme ça. Oui. Et puis aussi une pièce qui était bien, et qu'on aimerait bien refaire, mais c'est plus la même chose maintenant. C'est avec l'horloge parlante, avec plusieurs magnétos. On branchait sur... et comme les magnétos ne tournaient pas à la même vitesse, finalement, quand on mettait les trois magnétos ensemble, tout d'un coup, ça partait ensemble, et puis ça se décalait. Il y a toujours eu quelque chose comme ça. Le son, on l'a toujours utilisé, mais oui, c'est jamais très sophistiqué. Hein, c'est un peu bricolé.
Des métronomes pour marquer le temps. On a utilisé aussi le battement de cœur, il y a très longtemps. Le battement de cœur de Patrick et le mien, qu'on diffusait en même temps dans le même espace. Et puis, il y a des moments où ça bat ensemble, et puis des moments où ça s'éloigne, ça se rejoint. Et voilà, ça, on l'avait fait, on avait fait une très grande installation au musée dans une église à Caen, au moment de l'anniversaire du débarquement.
94.
On avait fait toute une pièce sur cette émotion énorme de ces jeunes gens qui étaient venus. Et à l'intérieur, on avait ramassé plein de bateaux qui dataient de cette époque, des épaves. Et à l'intérieur d'une de ces épaves, il y avait ces sons de battement de cœur qui étaient très amplifié. Quand on rentrait dans l'église, c'était presque angoissant. Quoi.
On l'entendait de l'extérieur de l'église.
Ah oui, puis on avait fait une pièce. Ah oui, celle-là, je voudrais en parler. C'était à la galerie Pièce Unique, on avait fait un jeu de billard. Et alors, sur les queues, il y avait, sur les boules, il y avait marqué le nom des pays qui étaient en crise à ce moment-là, qui étaient en guerre, et c'était le moment des guerres des Balkans. Et sur les queues, il y avait inscrit le nom des pays qui gouvernaient le monde. Et alors chaque fois que les gens pouvaient jouer, et quand les boules se rencontraient ou tombaient dans les trous, on avait mis un amplificateur à l'intérieur
des petits paniers.
Des paniers.
Et ça déclenchait des explosions.
Et on avait ouvert toutes les fenêtres et on entendait les explosions, c'était comme des trucs, des bruits de guerre, quoi.
Dans cette présence du son dans votre travail, il y a aussi des pièces qui me semblent être à la fois sonores et silencieuses, celles dans lesquelles on voit des mots apparaître. Par exemple, ces pétales de fleurs qui sont incisés parfois avec les épines même des fleurs dont on voit les pétales. Et qui porte des mots fragilité, cri, hésitation. Pour autant, je trouve que ça ne donne à votre travail ni un côté narratif, ni un côté littéraire. D'où vient chez vous et ce besoin des mots ?
Ben, on l'a toujours eu d'une manière différente, Patrick et moi. Je pense que depuis toujours, on écrit des journaux fictionnels ou réels. Il y a les carnets de fouilles dans les travaux sur l'archéologique. Et puis les mots isolés, c'est quand on veut isoler vraiment une intuition, une sensation, une idée, sans faire de phrases, sans faire de...
Mais c'est aussi parce qu'au départ, c'était beaucoup des choses qu'on ramassait par terre, des pétales qu'on ramassait par terre. Quelquefois, les gens avaient marché dessus, enfin des choses. Ou des choses, quand on... Tous les matins, on se balade, on marche, on fait des trucs, donc on ramasse des choses. Et il y a des mots qui nous viennent à l'esprit. Et on les marquait sur l'élément qu'on avait ramassé. Et après, on faisait la photo. Et petit à petit, on a développé ça. C'est devenu beaucoup plus sophistiqué. Mais c'est ça, en fait. Ce sont des mots qui nous viennent et qui correspondent en général au travail qu'on est en train de faire, mais qu'on peut pas exprimer sur les matériaux, sur les choses qu'on fait. Donc c'est le pétale, c'est une chose fragile sur laquelle on peut intervenir. On attend quelquefois que les plantes se fanent, ou on fait une photo au moment où on vient d'écrire le mot, une photo après, parce qu'il y a tout un changement. ça devient tout un autre processus. Mais ce sont des mots qu'on a en tête au moment où on réalise d'autres choses.
C'est comme les tatouages. Les gens qui se font tatouer, enfin des mots, des noms, et, c'est des choses essentielles pour eux.
Et puis on a l'impression d'intervenir, c'est assez cruel. Donc parce qu'on a, on écrit avec une pointe ou avec un, justement l'épine ou alors avec une plume, avec de l'encre, une encre qui est toujours rouge parce que c'est un rapport avec le sang. Et bon, donc c'est quand même lié comme ça.
Anne-Patrick Poirier, une fois que l'œuvre est produite, vient le moment de sa mise en espace, de sa mise en exposition. Je rappelais tout à l'heure les grands musées dans lesquels vous avez exposé. Vous parliez aussi de ces lieux plus secrets, plus confidentiels, ces églises, cet endroit dans la Roure. Vous avez aussi travaillé beaucoup dans des jardins. Est-ce que on travaille différemment dans un jardin que lorsqu'on travaille dans un espace d'exposition plus classique ?
Ben, tout dépend du jardin. Je veux dire que nous, on a beaucoup travaillé dans les jardins italiens. Alors, dans les jardins italiens, ce sont des lieux qui, eux-mêmes, souvent, sont peuplés de fabriques, de sculptures. Ce sont des lieux habités, ce ne sont pas des jardins sauvages. Par contre, il nous est aussi arrivé de travailler, qu'on nous demande de faire des choses dans des jardins, de créer des jardins. Et donc là, le travail est complètement différent. Mais souvent, on essaye, quand on nous demande de travailler dans des jardins, de recréer des lieux comme ça, comme des lieux de contemplation, des lieux d'émotion, des lieux. Ce qu'on veut pas, absolument pas faire, c'est faire mettre des choses comme des champignons sur un pré. On veut toujours essayer de retrouver les émotions qu'on a pu avoir dans les grands jardins classiques ou baroques ou maniéristes, mais à notre façon, si vous voulez.
Oui, parce que tout dépend des sites, des lieux. Comme dans un site archéologique ou dans une ville, on reste. À ce moment-là, on essaye de s'imprégner de l'endroit sur lequel on doit travailler. Si on nous demande de faire une sculpture, c'est une chose. Mais finalement, ça nous intéresse beaucoup moins que les rares fois où on nous a proposé de faire un jardin en y pensant de A à Z. Et là, c'est autre chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, on essaye de faire en grand ce que quelquefois on pense en petit quand on fait une maquette, et de manière à ce que les gens puissent déambuler, trouver. Et on a aussi toujours ce souci et cette idée de faire quelque chose de très humain, de très sensible, qu'on se sente bien, que ça soit vraiment, parce que je trouve que les architectes font des choses formidables, mais quelquefois c'est tellement mental et c'est très sec. Nous sommes artistes et on voit les choses d'une manière différente et on essaye de rendre plus une âme, une chose qui peut-être pour d'autres ça sera quelque chose de raté parce que c'est un peu en friche ou un peu moche.
Est-ce que une forme de spiritualité, est-ce qu'un jardin est plus propice à une forme de spiritualité ?
Tout à fait, oui. On essaye de rendre.
Dans notre esprit, ça devrait être ça.
C'est pour ça qu'on avait accepté de faire ce projet de cimetière près de Milan, justement parce qu'en pensant que les cimetières à l'heure actuelle, c'est quand même assez triste et assez catastrophique, et qu'on pouvait peut-être essayer, nous, de donner une âme, de donner autre chose, un autre esprit.
Dans ce rapport à l'espace et à la mise en scène, je voulais aussi évoquer un projet de mise en scène d'opéra que vous avez fait pour Jules César de Handel. Comment avez-vous travaillé pour cette chose-là ? Est-ce que c'était une méthode différente de travail ?
D'abord, on a écouté cet opéra, mais jusqu'à le connaître par cœur. On l'écoutait matin et soir, et on a essayé, comme on le fait pour les lieux, de s'imprégner complètement de cette musique. Puis alors là, quand on travaille avec un metteur en scène, on était obligé quand même de prendre Il y a certains impératifs qui viennent du mouvement des acteurs, du cœur, etc., qu'on est obligé de respecter. Mais en dehors de ça, on nous a laissé une grande liberté. Et puis surtout, pour nous, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'on avait à notre disposition des ateliers fantastiques de gens qui savent tout faire à des échelles énormes. Après ça, la lumière, vous avez des gens qui sont des éclairagistes fantastiques. Et c'était pour nous, c'était merveilleux de pouvoir faire ça, parce que c'était pouvoir recréer une atmosphère complètement rêvée, enfin de rêve, quoi, qu'on ne peut pas faire normalement. On peut faire ça qu'au théâtre.
Anne-Patrick Poirier, nous nous acheminons vers la fin de cette masterclass de France Culture. Pour parler des années récentes de votre travail, il me semble qu'il y a dans ces œuvres quelque chose peut-être de plus conceptuel et en même temps de très incarné par rapport au début de vos recherches. Est-ce que vous avez le sentiment que des artistes progressent dans leur œuvre ?
Ben oui, les autres, oui. Moi, je veux être toujours chez les autres, que ça progresse. Chez nous, ben, j'ai plutôt l'impression que c'est dans le sens inverse. Mais bon...
Je crois qu'on est trop dedans. Quand on fait quelque chose, on est trop dedans pour se rendre compte. On n'a pas le recul nécessaire pour voir. Mais enfin, j'espère qu'en 50 ans, je ne sais pas si on a fait des progrès, mais en tout cas, nous, ce qu'on veut pas, comment dire, ce qui nous intéresse, c'est de faire des choses, d'apprendre des choses, de sentir des choses, d'essayer de les traduire. Et tant mieux si elles sont bien, et tant pis si elles sont moins bien. Mais on continue.
De toute façon, un nouveau travail, c'est toujours une expérience, donc on ne sait jamais. Et puis on oublie complètement ce qu'on a fait avant, en général.
Oui.
Votre œuvre est extrêmement célébrée et reconnue. Cette reconnaissance, comment la vivez-vous ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez de temps en temps ?
On s'en rend pas compte.
Franchement,
on n'y pense pas beaucoup, je dois dire. Mais évidemment, quand il y a une bonne critique, on est très très content, ça nous fait très plaisir, ça nous rassure, parce qu'on n'est pas sûr de nous. Hein.
Non, non.
Pas croire que les...
c'est pour ça qu'on est deux,
d'ailleurs. On est sûr de nous. Non, on n'est pas sûr de nous, on se remet tout le temps en question.
Est-ce que la postérité, vous y pensez ?
Ah non, ça...
Alors moi, je vais vous dire, il ne faut pas être hypocrite. Je pense que tous les artistes qui ont consacré leur vie à un travail, à leur art, ne peuvent pas dire qu'ils pensent jamais à la postérité. Parce que ça me fait rire. Mais d'un autre côté, on n'y pense pas. Enfin, je veux dire, tant mieux si le travail reste, tant mieux. S'il ne reste pas, tant pis. On aura eu une vie formidable, intéressante, passionnante. Et voilà, il y a des tas d'arts merveilleux qui ne durent pas, comme la danse, comme le théâtre, etc. Ce qui compte, c'est ce qu'on a fait, quoi. C'est au moment où on le fait aussi.
Personnellement, je m'occupe beaucoup du rangement d'une réserve. Et ça, je dois dire, la postérité, ça me panique.
Alors, Anne-Patrick Poirier, c'est la fin de cette masterclass de France Culture. Mais je voulais revenir à cette question de la création à quatre mains. Dites-nous, qu'est-ce qui fait que ça dure ?
Je me le demande tous les jours.
Merci beaucoup, Anne-Patrick Poirier.
Merci à vous. Merci.
C'était la masterclass d'Anne et Patrick Poirier avec Anaël Pija. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Gergaillan.